France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En février 2020, à l'occasion de la parution d'un recueil d'articles inédits de Philippe Ariès, Dominique Khalifa soulignait dans le journal Libération qu'il existait une énigme Philippe Ariès. Comment comprendre, écrivait-il, que cet importateur de fruits tropicaux, né en 1914 dans une famille catholique, royaliste, maurassienne, et demeuré fidèle à cet héritage, en soit venu à pratiquer une nouvelle histoire ouverte à la démographie, à l'anthropologie et aux mentalités ? Énigme, en effet, que cet homme qui se disait historien du dimanche, membre dans ses jeunes années de l'Action française, mais qui fut aussi le premier éditeur de Michel Foucault et un héritier de l'École des Annales. En 1984, 3 mois après sa disparition, son ami Roger Chartier explorait le paradoxe dans une émission hommage diffusée dans les Nuits magnétiques. En compagnie de Raoul Girardet, d'Arlette Farge, Jean-Louis Flandrin, Jean Hébrard, Jacques Revel et Michel Vinocq, il racontait l'itinéraire intellectuel de Philippe Ariès, ce que sa manière de pratiquer l'histoire avait eu de profondément novateur, et l'importance des ouvrages qui firent sa renommée, bien au-delà du cercle universitaire, en particulier « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », paru en 1960, et « L'homme devant la mort » en 1977. Philippe Ariès, l'histoire en liberté, une émission réalisée par Bruno Sourcy et diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 juin 1984.
Philippe Ariès est mort en février de cette année. Cette émission lui sera dédiée. Mais qu'on ne se méprenne pas, cet homme passionné, gai, libre, aurait détesté qu'on lui rende un hommage académique et qu'on parle de son œuvre d'historien comme s'il s'agissait d'un monument obligeant au respect. Pour lui, l'histoire devait bousculer les conventions, les autorités, être à la fois une passion de comprendre et une joie de la rencontre, avec les témoins du passé, bien sûr, mais aussi avec ces sociétés qui ont disparu, et surtout une rencontre avec les autres, ses contemporains. Son histoire, il l'a écrit et dit, était une histoire du dimanche, puisqu'il n'était pas historien de profession, ni agrégé, ni normalien, ni professeur. Mais plus encore, elle était une histoire en liberté, d'où le titre de notre émission, une histoire inventée hors des sentiers battus, attachée à l'essentiel de ce qui fait la vie des hommes, une histoire irrespectueuse et pionnière. Philippe Ariès était un homme de paradoxe. Traditionnaliste, il a inventé plus que tout autre. Homme de droite, il s'est toujours senti en sympathie, en connivence avec des historiens qui ne l'étaient pas. Formé dans une culture humaniste et classique, il a été avant tout attentif à comprendre la modernité. Tous ceux qui participent à cette émission et qui ont connu Philippe Ariès à divers moments de sa vie, dans des circonstances bien différentes, voudraient, ensemble, dessiner le portrait éclaté, le portrait d'un homme qu'ils aimaient, d'un historien qui leur a beaucoup appris.
La voix de Philippe Ariès en 1978.
Moi, je pense que cette prolifération d'ouvrages sur la mort vient d'une source très restreinte. C'est une petite élite de scientifiques, de psychologues, d'où sont exclus d'ailleurs en général les médecins et les prêtres. Et je ne pense pas que ça touche le fond de notre société occidentale. Je pense que ça ne touche pas ce qu'on appelle d'une manière maintenant très générale le tabou de la mort. Ça n'a pas modifié le fond de l'attitude globale de la société devant la mort. Le fait qu'il paraît beaucoup de livres sur la mort.
Parler de Philippe Ariès, c'est bien sûr parler de ses livres et d'une œuvre qui a bouleversé nombre de certitudes acquises, ouvert de nouveaux horizons et modifié pour nombre de lecteurs l'idée même qu'ils avaient de l'histoire. Mais je crois qu'il faut aussi évoquer l'homme chaleureux, attentif, passionné qu'était Philippe Ariès. Et personne mieux que vous, Raoul Girardet, qui avait été son ami depuis les années de la Sorbonne, je crois, ne peut le faire. Et ce qui frappe lorsqu'on lit son livre de souvenirs autobiographiques, c'est justement la force de ses amitiés du temps de la Sorbonne qui l'ont accompagné toute sa vie.
Mais au fond, Philippe Ariès était un tout. Et effectivement, son goût de l'amitié, sa passion pour l'amitié, je crois, était absolument inséparable même de sa vie d'historien. La période qui a précédé la guerre a été pour lui une espèce de période bénie, dans laquelle il a à la fois rencontré l'histoire, ce qu'il estime être la vraie histoire, tout au moins la dimension historique, ce qui le réconciliait avec lui-même, avec sa famille, avec son passé, et puis simultanément il a rencontré un certain nombre de gens qui sont restés amis toute sa vie. Je crois que le sens de l'amitié était pour lui très lié à un certain sens du temps et à un certain sens du passé.
On a l'impression que ces amitiés du temps de la Sorbonne, elles ont à la fois une première réalité, qui est une réalité politique, et puis en même temps qu'il y a quelque chose en dessous ou en deçà qui est ce goût qu'il a toujours manifesté dans son œuvre pour les petites communautés, pour ce qui est la convivialité du petit groupe.
Oui, au départ, indiscutablement, il y a eu, à l'origine de ce petit groupe, il y a eu ce qu'il faut bien appeler l'Action française. Bon, c'est à l'Action française que j'ai connu Philippe Ariès. J'étais plus jeune que lui, j'étais néophyte, je rentrais à l'Action française. Et Ariès en était quelque sorte, avec Pierre Boutangue, sorte de tuteur intellectuel. Il jouait un grand rôle dans un endroit qu'il décrit, je crois, qui était le local des étudiants d'Action française à la rue Saint-André-des-Arts, particulièrement crasseux. Ou sur des espèces de chaises qui étaient toujours démolies, une fois par mois, venait Borras, entouré d'une grande vénération, qui rétrospectivement me paraît d'ailleurs un peu surprenante, car Borras disait toujours la même chose, d'une même voix sourde, et personne ne pouvait placer un mot. Mais c'était là que s'est élaboré, en même temps que dans la cour de la Sorbonne, s'est élaborée cette amitié.
Je crois qu'il y a une dimension aussi de la personnalité de Philippe Ariès qu'il nous faut évoquer parce qu'elle n'est pas connue de ses lecteurs, de ceux qui ne l'ont approché qu'à travers ses livres. C'est le rapport qu'il entretenait avec son métier. Nous savons tous qu'il n'était pas historien de profession, de corporation, qu'il avait un autre métier. Et on pourrait spontanément penser que ce métier l'ennuyait et que ce qu'il aurait aimé finalement c'est faire de l'histoire. Mais c'est pas du tout le cas.
Ah oui, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ariès a été passionné, c'était un passionné. Et il a été passionné par son métier.
Alors il faut le rappeler, il était un...
Alors il s'occupait d'un service de documentation d'un institut ou d'un groupement de fruits et agrumes coloniaux. Et il avait été chargé, ayant été collé à plusieurs reprises à l'agrégation, ayant été obligé de prendre un métier, il avait été chargé de mettre sur pied service. Et il avait ça avec une passion très grande. La première fois que j'ai entendu parler de Philippe Ariès dans un milieu universitaire, c'est au titre de ses travaux documentaires. Il a été le premier à appliquer à la documentation les procédés de l'informatisation. Il a été le premier à constituer un thésaurus. Je ne saurais expliquer exactement ce que c'est qu'un thésaurus, bien qu'Ariès me l'ait expliqué longuement, mais je crois que je n'avais jamais très bien compris. Et ça concernait à la fois les bananes, les oranges les ananas et autres fruits coloniaux. Et il était très passionné. Non seulement il était passionné de son métier, mais il était très passionné des gens qu'il avait pu rencontrer dans son métier.
Et ce qui est il le reconnaît lui-même une sorte de paradoxe, parce que son histoire telle qu'il l'a fait, elle est très inventive, mais elle est quand même enracinée dans une culture humaniste, fondamentalement. Et puis ce métier, c'était un métier le plus moderne possible.
Qu'il avait rendu très moderne, car il avait substitué aux quelques fiches probablement un peu crasseuses qui devaient exister avant lui, il avait substitué un système qui était un système très perfectionné et qui a servi effectivement de modèle à beaucoup de centres de documentation beaucoup plus importants. y compris en partie celui de la Fondation nationale des sciences politiques.
Et on retrouve un peu là ce qu'il dit de son père ou de sa famille, c'est-à-dire ce lien entre des valeurs traditionalistes et un goût de la modernité.
Il détestait pas du tout la modernité, au contraire. Pendant très longtemps, ce qui l'opposait, des discussions véhémentes et furieuses d'ailleurs à ses amis, c'est que nous étions très... on peut tenir très en retrait par rapport à la modernité. L'automobile...
Le cinéma
Pas le cinéma, non, pas le cinéma, mais l'automobile. Boutang détestait l'automobile, les frigidaires. Boutang, il y avait un côté très, très pré-mai 68 dans ce petit milieu de jeunes traditionnalistes. Et ça avait été Ariès en fureur. Ariès, je pense, a été le premier d'entre nous à avoir une auto. Il aimait le monde moderne. Il a beaucoup aimé les États-Unis, par exemple. Il a beaucoup aimé la Californie.
Alors, une autre dimension qu'il a aussi est très imperceptible dans son œuvre. Il ne s'en est ouvert que dans le dialogue avec Michel Vinocq à la fin de son livre « L'historien du dimanche ». C'est la dimension de sa foi religieuse. C'était un homme très religieux, mais vraiment à sa façon.
Oui, c'est très difficile de parler, je pense, de cela. Et ça m'est plus particulièrement difficile, d'ailleurs, quelqu'un d'autre, ayant beaucoup de mal à la comprendre. C'est une foi qu'il ne l'avait jamais quittée, en vérité. Mais qui ne semblait pas, pendant très longtemps, tenir dans sa vie une très grande place, ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie familiale, ni dans sa vie amicale. Elle se manifestait surtout par des choses qui nous faisaient un peu sourire, comme par exemple les messes qu'il organisait chaque dimanche pour son propre usage et pour l'usage de sa femme. Philippe détestait le modernisme dans l'Église catholique. Il acceptait beaucoup les automobiles, les frigidaires, la télévision, mais il détestait le modernisme et il détestait les prêtres modernistes. Mais en même temps, il n'aimait pas du tout les intégristes. Pour lui, tout ça, c'était l'histoire de curés. Et il avait un vieux fond anticlérical qu'ont souvent précisément les âmes religieuses. Alors il se fabriquait chaque dimanche une sorte de petite messe de lectures diverses de textes sacrés. Mais il est bien certain que dans les dernières années de sa vie, et surtout dans la dernière année de sa vie qui a été horriblement douloureuse, avec l'interminable et horrible maladie de sa femme, qu'il a vécu à chaque instant, avec ensuite sa propre maladie, sa foi religieuse s'est considérablement développé et était devenu à peu près l'essentiel. Les derniers mots que je lui ai entendu dire, et c'était 3 jours avant sa mort, c'était pour m'expliquer qu'il ne craignait pas la mort parce qu'il croyait en Dieu. Le dernier livre que je lui ai vu entre les mains, c'était les Fioretti de saint François d'Assise. Et tout ça n'était pas tout ça était très lié avec sa conception de l'histoire. Il y a un texte de lui qui doit dater de 1946, donc il était encore très jeune, et où il disait qu'au fond, faire de l'histoire, c'était une sorte d'expérience du sacré. Après, bon, on a peut-être un peu oublié ses paroles, mais je crois qu'il les a retrouvées considérablement à la fin de sa vie. Et je ne pense pas qu'on puisse réellement parler de Philippe Ariès sans tenir compte de cette dimension. Sur ce point, il était très discret. Il était pas très discret sur ses goûts, ses manies. Il était volontiers autoritaire. Mais sur cette foi qui était réelle, il a toujours été très, très discret. Et à la fin de sa vie, je pense que ça a été l'essentiel de lui-même.
Mais je crois qu'il faut qu'on dise aussi un mot sur son rapport avec sa femme, parce que beaucoup de gens qui l'ont rencontré dans des colloques, dans des voyages, les ont rencontrés, en fait. Il voyageait avec elle et elle avait un grand rôle dans la confection même de ses livres.
C'est une histoire assez étonnante qui est d'ailleurs à la fois très liée, effectivement, à son œuvre historique et puis je pense aussi à sa foi religieuse. Après tout, pourquoi ne pas le dire, ce mariage qui, au départ, avait été un mariage de convenance, était devenu une espèce de couple modèle que les petits inconvénients de la vie avaient encore rapproché, alors que généralement, ça tend à désunir les couples. Et il a vécu réellement la maladie de sa femme avec une passion extraordinaire. Les dernières lettres que j'ai reçues de lui, notamment celle où il parlait de la mort de Primrose, témoignaient justement de cette espèce de totale fusion, Et il faut bien dire que je pense qu'il a été très heureux de mourir peu de temps après sa femme.
Philippe Ariès.
Oui, et les sondages sociologiques nous montrent, tels qu'on les a fait aux États-Unis en particulier, que la foi dans une certaine survie ou dans un certain au-delà, n'est-ce pas, est très grande au fur et à mesure qu'on s'approche de la mort. Je me rappelle que ce sont les chiffres de 80%. Elle est faible chez les jeunes et elle ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'on s'avance dans la vie et qu'on s'approche de la mort.
Et qu'on vieillit. Je pense aussi que c'est très différent selon les catégories sociales.
Oui, les chiffres sont plus élevés dans les classes populaires et plus faibles dans l'intelligentsia.
En ce début de 1984, viennent de disparaître deux historiens français qui ont attaché leur nom à l'histoire des mentalités, Philippe Ariès, auquel nous consacrons l'ensemble de cette émission, et aussi Robert Mandrou. Et Arlette Farge, vous les avez bien connus l'un et l'autre, c'est pour ça que votre témoignage dans notre émission de ce soir est précieux. Alors, entre ces deux hommes, il y a d'abord eu une collaboration toute professionnelle, technique, en tant qu'éditeur.
Oui, une collaboration peut-être un peu oubliée. Il serait peut-être intéressant d'en restituer le passé. C'est-à-dire que déjà l'un et l'autre avaient pris séparément le chemin de l'édition. D'abord Philippe Ariès en 1953 chez Plon, et où il dirigeait la collection Civilisation d'hier et d'aujourd'hui. Et comme c'était un esprit très très curieux et toujours finalement très avide de ce qui pouvait être neuf et hors des sentiers battus, eh bien finalement c'est lui qui a soutenu le manuscrit de Michel Foucault, L'histoire de la folie, qui avait déjà traîné quand même à peu près un an chez les éditeurs. Et c'est finalement la curiosité de Philippe Ariès et le soutien qu'il y a mis, qui a fait sortir ce livre en 1961. Je crois qu'on peut le rappeler.
Oui, je crois que c'est un point intéressant, parce que dans les titres qu'il avait édités dans cette collection, on voit très clairement qu'il y a deux ensembles. Il y a d'une part les livres de ses amis du temps de la Sorbonne et
oui.
du temps de l'Action française, mmh. Raoul Girardet, qui est mmh. le premier livre avec lequel il a ouvert la collection, mmh. Gilbert Picard, le spécialiste d'histoire romaine, et puis d'autre part, des livres qui sont maintenant d'immenses classiques et qui, à l'époque, étaient tout à fait mal reconnus et refusés par nombre d'éditeurs. Et dans ce cadre-là, entre le livre de Michel Foucault, je crois qu'il est peut-être intéressant de lire cet épisode tel que Ariès le rappelait dans son livre de souvenirs, un historien du dimanche. Un beau jour, un gros manuscrit m'est arrivé, une thèse de philosophie sur les relations entre folie et déraison à l'époque classique d'un auteur inconnu de moi, cet auteur, Michel Foucault. À le lire, j'ai été ébloui, mais il a fallu la croix et la bannière pour l'imposer au nouveau patron, l'un et l'autre ignorant tout de l'édition. Vous devinez qu'il s'agit de l'histoire de la folie, le premier livre de Michel Foucault. Enfin, on est parvenu à l'imposer. Il est sorti et la chose faite, les éditeurs n'ont eu qu'une idée dans la tête, qu'on ne leur en parle plus. Il n'importait pas qu'il se vende, il ne fallait rien tenter pour le faire connaître. Vite, qu'on l'oublie. Il était d'ailleurs ainsi de beaucoup d'autres livres. L'un des collaborateurs de la maison faisait pression sur les représentants pour qu'ils ne fissent aucun effort en faveur des livres recommandés par les gens qu'ils n'aimaient pas. Vous savez, nous avons dû prendre ce bouquin, nous n'y tenions pas. Quand par miracle les livres se vendaient, c'était vraiment que les lecteurs en voulu.
Je crois qu'on peut peut-être, Sylla, continuer un tout petit peu le parallélisme avec Mandrou, parce que c'est justement en 62 que Mandrou publie dans les annales un commentaire extraordinairement élogieux de l'histoire de la folie. Donc déjà, Bon, mais pendant ce temps-là, en fait, pendant que Philippe Ariès dirigeait cette collection, en même temps, Mandrou avait fondé la collection Histoire des mentalités, aussi chez Plon. Et bon, là, ce sont des titres peut-être moins prestigieux. Enfin, il y a quelques livres peut-être oubliés maintenant. Enfin, c'était, enfin, j'en cite un qui est peut-être plus connu, c'est celui de Rude sur les idées sociales de Stendhal. Mais en fait, la rencontre officielle d'éditeurs entre Ariès et Mandrou se situe en 1967, à peu près à la fin de 1967, pour fondre ces deux collections en une seule, toujours chez le même éditeur, chez Plon, qui s'appellera la collection Civilisation et mentalité. Et alors là, finalement, il y a quand même, dans ces 7 ans, il y a eu une grosse production. Je vérifiais ce matin, et il y a presque 2 ou 3 livres par an. Bon, avec finalement des gens qu'on connaît un petit peu maintenant.
Qui appartenaient aussi à ce réseau, soit oui. des amitiés proches de l'un c'est ou l'autre, ça. Soit de gens inconnus, mais dont les livres les avaient frappés
ou par leur nouveauté, issus de leur séminaire.
Je crois que cette expérience du temps de l'édition avait peut-être encore plus d'importance pour Ariès que pour Mandrou, dans le sens que, à cette époque, Philippe Ariès n'était en rien reconnu par les institutions universitaires françaises. En 1953, lorsqu'il commence, son œuvre n'est d'ailleurs qu'il n'y a que quelques livres et dans un silence à peu près absolu du côté de l'université. Et c'est par ce rôle d'animateur de collection qu'il pouvait tisser des liens avec le monde universitaire qu'il n'avait pas sur un autre plan institutionnel. Et je crois aussi, ce qui est intéressant, c'était son projet, parce que on peut le rappeler, il a déclaré que son but, lorsqu'il a repris cette collection, Civilisation d'hier et d'aujourd'hui, était de sortir des ouvrages qui s'adresseraient au-delà du cercle étroit des historiens de métier à un public plus large d'intellectuels et qui seraient des ouvrages originaux et non pas de seconde main ou de vulgarisation. Je crois que c'est une initiative qui a eu un bel avenir ensuite.
Oui, c'est sûr. Puis je crois aussi que ce qui l'intéressait beaucoup, c'était toujours de travailler sur le domaine des cultures et de la psychologie collective, et finalement d'ouvrir un champ qui était quand même assez peu perçu à cette époque-là, ou tout du moins assez neuf.
Ça, c'est... Mais, alors, est-ce qu'on peut poursuivre ce parallèle entre ces deux historiens qui nous ont maintenant quittés, dont on vient de voir les liens dans ce travail d'édition, je veux dire Philippe Ariès et Robert Mandrou? Est-ce que il vous semble que entre leurs deux œuvres et au moment où il les faisait, il y a des parentés fortes?
Oui, moi je crois, mais enfin je pense que ce qui justement m'avait particulièrement attachée à leur pensée et à leur forme de travail, c'était déjà de travailler non pas dans les marges, parce que je crois que ce serait trop fort, mais de travailler dans une histoire qui n'était pas dominante à l'époque et qui représentait une certaine rupture avec l'histoire traditionnelle socio-économique, qui avait ses contraintes, qui avait ses règles, qui était tout de même une histoire plus rigide en somme. Et au fond, ce que proposait notamment Philippe Ariès, je crois, c'était une sorte d'accès à une très grande liberté dans tous les domaines.
Absolument, et je crois aussi que ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire a été qualifiée par eux-mêmes et de l'extérieur comme histoire des mentalités, c'est sans doute vrai, dans la mesure où elle voulait, par-dessus le temps de domination de l'histoire socio-économique, renouer avec ce qu'avaient été les premières annales, les premiers livres de Lucien Febvre ou l'œuvre de Bloch sur les rois thaumaturges. Donc, s'inscrire dans ce courant classiquement nommé histoire des mentalités. Mais je crois que l'un et l'autre, et Ariès tout particulièrement, déplaçait un peu ce qu'était le contenu de l'histoire des mentalités, si on entendait par là uniquement l'histoire des représentations mentales, des outillages intellectuels. Ce qui les intéressait beaucoup, c'était des pratiques, c'est-à-dire des systèmes de conduite.
Oui, mais je crois que ce qu'ils déplaçaient, et particulièrement Philippe Ariès dès le départ, c'était déjà l'idée de source, c'est-à-dire que pour eux, il était absolument possible d'employer toute source qui pour travailler. Donc ça déplaçait déjà le questionnaire. Bon, par exemple, les études sur la criminalité, il y en avait pas du tout à cette époque-là, et prendre les archives judiciaires comme matériau historique n'était absolument pas évident. Et je crois que déjà sur ce plan-là, sur le plan des sources, c'était une liberté fondamentale.
Je crois d'ailleurs qu'il prenait ces sources diverses, multiples, d'une façon qui n'était tout à fait contraire avec celle qui était développée par les historiens classiques d'une histoire sociale, même transportée au niveau culturel. Une citation, une phrase d'Ariès m'a toujours paru pertinente à ce propos, c'est dans la préface à ses essais sur l'histoire de la mort. C'est un petit livre dans lequel il avait rassemblé quelques articles et puis une série de 4 conférences qu'il avait fait aux États-Unis en attente du grand livre « L'homme devant la mort ». C'est un livre qui parut en 1975. Et alors, il explique quel a été son itinéraire. Et il dit « Chaque fois, je m'enfonçais dans des séries documentaires nouvelles, passionnantes, donc ici, cet appétit de connaître quelque chose de neuf, cette sorte de joie très libre de la découverte, que j'abandonnais quand j'avais le sentiment qu'elle se répétait et ne m'apportait plus rien. » Alors justement, je crois que c'était la répétition qui intéressait d'autres historiens à l'époque.
Bien sûr, cette phrase, elle résonne en moi parce que justement, je crois que ce qui était très intéressant chez Philippe Ariès, c'était cette découverte et cette joie, comme vous venez de le dire, à partir de la source d'archives. Enfin, c'est quelqu'un qui furetait partout et qui était curieux de tout et pour qui l'archive était déjà, la découverte était déjà une joie en soi, la lecture en soi. Alors après, effectivement, ce qui est, en tout cas moi, ça a guidé beaucoup mes travaux, c'était justement obtenir enfin une véritable liberté vis-à-vis de ce qu'on appelait le sériel et de pouvoir penser que l'événement singulier qu'on lit tout d'un coup, qui survient au moment d'une lecture d'archives, peut être aussi significatif que si on a dépouillé des centaines et des milliers, ou tout du moins exhaustivement, finalement, tout un corpus d'archives. Et à ce moment-là, c'était quand même difficile, parce que moi, je me rappelle, c'était donc vers les années 60, entre 74 et 77, il y avait une bataille autour de l'exhaustif et du singulier. Au fond, finalement, on pouvait vous demander légitimement, mais qu'est-ce que vous apportez comme preuve? Et la preuve, la fameuse preuve historique, c'était quand même, il valait mieux apporter des sources exhaustives qu'un événement singulier. Or, ce regard qu'il apportait, Philippe Ariès, qui était à la fois très intuitif, je crois, et très passionné, et chaleureux aussi, parce que c'était un homme chaleureux, qu'il apportait à l'événement singulier, ça a été pour moi certainement très, très libérateur. Enfin, moi, ça m'a permis de me promener dans les archives de façon totalement différente que si je n'avais pas rencontré une forme de pensée comme celle-là.
Est-ce qu'il pouvait alors, à l'époque, apparaître aux yeux de certains historiens comme une sorte d'archaïsme référant à une vieille manière de faire de l'histoire où l'on pouvait passer d'une singularité à une autre mais sans ne rien prouver, pour reprendre ce que vous disiez, apparaît maintenant comme sans doute quelque chose de très anticipé, puisque dans les courants les plus contemporains de l'histoire, ce retour au singulier, c'est-à-dire la lecture de l'événement singulier comme étant peut-être parfois le degré extrême de la représentativité, non pas sur un sens statistique, mais sur un sens de compréhension des phénomènes, est une donnée que aussi bien des historiens italiens comme Carlo Ginzburg ou américains comme Nathalie Davis ont mis à l'ordre du jour. Et de ce point de vue-là, comme souvent d'ailleurs dans les travaux d'Ariès, une inscription dans la tradition était en fait anticipatrice de pensées tout à fait inédites et originales.
Oui, surtout je crois qu'il faut bien comprendre que le singulier, c'est pas, comme vous le disiez, le retour à un classicisme, c'est pas l'anecdote, c'était toujours quelque chose qui venait prouver finalement une singularité profonde au sens où lui se considérait comme un être singulier. Enfin, cette espèce d'échappée constante de l'homme hors des classifications et hors d'une réduction. Une réduction à une doctrine ou à un ensemble d'attitudes. Enfin, je crois qu'il y avait aussi... Enfin, ça correspond finalement à ce qu'il était lui aussi, je crois.
Oui. De ce point de vue aussi, dans la même perspective, je crois que son inspiration a été forte pour mettre à l'ordre du jour des comportements ou des conduites qui n'étaient pas d'ordinaire prises en compte par l'histoire même des mentalités.
Oui.
L'ensemble de tout ce qui est en dessous du conscient, du clair, de l'ordonné, de l'exprimé.
Oui, c'est peut-être ça un petit peu d'ailleurs ce qui le distingue finalement avec Robert Mandrou, donc qui dans l'introduction à la France moderne, qui a peut-être analysé finalement une sorte d'homme moyen, une sorte de moyenne, d'un homme qu'on pourrait reconnaître partout. Et au fond, je crois qu'Ariès, alors là, se démarque certainement de Robert Mandrou en ce sens-là, par une grande sensibilité vis-à-vis de tous les gestes qui tissaient notre vie quotidienne, et finalement ces gestes qui sont profonds et qui sont secrets. Et que seule une analyse très très détaillée, une lecture très très détaillée de l'archive et singulière permet de restituer. Et je crois moi que justement c'était aussi un des aspects que je trouvais un des plus intéressants.
Et c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre l'intérêt très spécifique qu'il portait aux images, au sens le plus large possible, puisqu'il s'agissait aussi bien d'analyser des tableaux de maître que de la statuaire funéraire ou que n'importe quel type de représentation iconographique. Peut-être parce que, pour lui, analyser l'image, c'était être en contact possible avec cet horizon du secret qui n'est pas forcément dit dans les textes et qui n'est pas forcément non plus clairement présent à l'esprit des agents sociaux, mais qui appartient à une zone d'inconscient qui se dirait de manière automatique, spontanée, dans l'image. Je crois que ça a aussi une grande importance de rappeler ce goût pour l'image, parce que c'est touché là une des dimensions fondamentales de son existence, qui ont été la vie entière passée avec sa femme, qui était présente, vous l'avez signalé tout à l'heure d'ailleurs à l'occasion d'un point précis, mais qui était constamment présente à ses côtés et aussi impliquée dans ses recherches. Et là, dans son texte autobiographique, il y a un très beau passage, très émouvant, où il évoque comment c'est à partir du moment où il rencontre Primrose, son épouse, qu'il a cet intérêt et cette idée que les images peuvent lui apporter beaucoup. Ma femme m'a appris à regarder l'univers des formes. Je compris le parti que pouvait en tirer l'historien. Elles étaient aussi, ces formes, des documents sur la sensibilité et la vie, au même titre que la littérature et les papiers d'archives. À partir de ce moment, le document iconographique est devenu pour moi une source favorite, source d'inspiration autant que de documentation. Les images que je poursuivais partout où une main d'artiste ou d'artisan les avait tracées, au hasard des voyages, éveillaient une curiosité, posaient un problème, orientaient une recherche, ce fut passionnant.
Oui, non, je crois que c'est très juste ce que vous dites, d'autant qu'au fond, ce qu'il aimait, c'était toucher dans le document ce qui n'était pas immédiatement mémorable. Et je crois qu'effectivement, dans le document iconographique, c'est absolument ce qu'il cherchait aussi. Puis je crois qu'il faut rappeler aussi qu'il a construit d'ailleurs son livre « Les images devant la mort » comme ça. Il aimait le cinéma et il aimait le montage. D'ailleurs, il disait toujours que s'il avait voulu habiter en Plassans de Toulouse, c'était pour être tout près des cinémas et pour y aller souvent. Et je crois qu'au fond, s'il aimait tant le cinéma, c'est parce que justement la caméra peut tout d'un coup faire irruption dans quelque chose qui ne serait pas forcément mémorable si elle n'avait pas fait intrusion là. Et je crois que c'était ça aussi qu'il
aimait. Oui, je crois qu'il est bien que son dernier livre ait été Les images de l'homme devant la mort, qu'il a dédié à sa femme, puisque les matériaux qui sont là publiés ont été collectés pendant plus de 20 ans par eux ensemble à travers les musées ou les sites d'Europe. Et d'autre part parce que dans ce livre, il peut manifester tout à fait clairement un principe de construction de l'écriture historique qui était sans doute plus ou moins latent, mais plus bridé dans les livres antérieurs, c'est-à-dire des techniques d'écriture qui sont en fait des techniques cinématographiques. Et dans ce livre, vous avez de multiples retours en arrière où l'on déroule une série documentaire et ensuite on retourne en arrière pour en dérouler une autre, des sortes de gros plans sur tel ou tel ensemble documentaire singulier, comme vous disiez tout à l'heure, des plans panoramiques où se trouvent rapprochés des objets qui ne l'ont jamais été ni dans la géographie ni dans la chronologie, des sortes d'accélérés pour arriver au moment où les choses changent et donc au moment où elle l'intéresse. Et on peut relire les livres antérieurs, sans doute, aussi dans cette perspective, bien qu'à l'époque, il n'ait eu ni conscience, ni peut-être la totale liberté pour mettre en œuvre ces procédés de construction, ces livres antérieurs étant plus classiques dans l'écriture.
Je crois aussi que c'est pour ça qu'il disait que lorsqu'il a fait le commentaire de ces images, il l'a fait une fois toutes les images mises au point, et il a fait le commentaire comme si, à ce moment-là, il voyait se dérouler un film. Et il dit que ça a été très vite pour lui.
Thank you.
le tabou sur la mort touche la mort banale. La mort à l'hôpital, la mort au lit, la mort de tout le monde. Mais elle ne touche pas du tout la mort violente.
La mort accidentelle.
La mort accidentelle ou le meurtre. Les cinémas sont absolument pleins de ces images. Il y a à la fois dans notre civilisation actuelle un goût pour la mort violente et un refus de la mort banale.
Avec Jean-Louis Flandrin et Jean Hébrard, nous voudrions évoquer maintenant quelles ont été les lectures faites du livre qui a rendu célèbre Philippe Ariès, à savoir « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». C'est un livre qui avait été publié en 1960 par Plon, dans la collection même d'ailleurs qu'Ariès dirigeait à ce moment-là chez Plon, et cette collection intitulée « Civilisation d'hier et d'aujourd'hui ». Et puis ensuite, il a été réédité en 1973 au Seuil. Alors, Jean-Louis Flandrin, en 1960, quelle était l'invention, finalement, qui était proposée aux historiens et plus largement à un public de lecteurs, puisque l'intention d'Ariès était de toucher au-delà du cercle des historiens de profession. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau avec ce livre? Qu'est-ce qu'il inventait?
Je crois d'abord que ce qu'il y avait de nouveau, c'était le sujet. L'idée de faire une histoire de l'enfance, une histoire de l'enfant, à cette époque-là, on n'avait absolument pas l'idée. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est aussi un peu la manière dont il essayait de travailler. C'est-à-dire qu'il faisait l'histoire de quelque chose dont les gens, sur le moment, n'ont pas été conscients, dont on n'a jamais été conscients. Alors, il faut inventer des procédés pour faire une telle histoire. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que il utilisait, me semblait-il, des séries un petit peu comme les historiens économistes, c'est-à-dire qu'il prenait une série de tableaux, il prenait une série de calendriers, série par série, ou il prenait la série des costumes, etc. Et à partir de toutes ces séries, ça le menait vers des conclusions qui étaient en somme convergentes. L'enfant se distinguait peu autrefois, il se distingue de plus en plus. On distingue de plus en plus les âges de la vie, les idées sur les âges de la vie se durcissent au fur et à mesure que les siècles passent. Et c'est ce qui m'avait le plus intéressé dans cette histoire.
Oui, ce qui est frappant aussi, c'est qu'une des hypothèses qui était fondamentale pour expliquer ce phénomène dont vous venez de parler, c'est-à-dire le fait que l'enfance qui n'existe pas ni dans le vécu ni dans les représentations, pour lui, il y a un moyen âge assez largement prolongé et qui apparaît au tournant des 17e, à la fin du 17e et au 18e siècle, était articulée, cette idée-là, sur une hypothèse qui était celle de la naissance, de l'émergence progressive d'un type de famille, à la fois en termes démographiques et en termes affectifs, qui était la famille bourgeoise du 19e siècle, la famille nucléaire, la famille fermée sur elle-même dans la relation parent-enfant. Et est-ce que ce thème-là vous avait frappé en 60, et est-ce qu'il vous paraît maintenant avoir été un des grands apports d'Ariès à une histoire de la famille?
Non, j'avais l'impression que ces idées sur la famille, il le devait plutôt à d'autres historiens. Enfin, je veux dire que c'était des idées qui étaient déjà dans l'air, qu'on était passé du lignage, en somme, à la famille nucléaire. Il m'a pas semblé que ce soit quelque chose d'original qu'il apportait. Et ce qu'il apportait d'original, c'était ce qui avait les sentiments qui existaient à l'intérieur de cette famille. Et ce qu'il apportait d'original, c'est dire que la famille nucléaire s'était soudée avec l'amour de l'enfant, autour de l'enfant.
Oui, alors, cette hypothèse-là, il l'a gardée d'ailleurs à travers toute sa vie, puisque l'un et l'autre, nous avons été associés à son dernier projet sur lequel il a travaillé dans toutes les dernières années, qui était une histoire de la vie privée qu'il avait mis en chantier avec Georges Duby et qui, malheureusement, il ne pourra porter à son terme. Mais une des hypothèses fondamentales dans la partie dont il s'occupait, qui était entre 16e et 18e siècle, était justement celle-ci. Ce passage de groupe de convivialité, c'est-à-dire pas seulement de la famille élargie, mais de l'ensemble de formes de sociabilité qui rassemblent les hommes dans de petites communautés, à un 19e siècle qui, pour lui, desséchait ce type de relation en investissant l'ensemble de l'affectivité sur une seule forme, la famille nucléaire. Est-ce que c'était pas un peu paradoxal par rapport à ses idées politiques ou à son idéologie qui aurait dû normalement plutôt le faire louer un 19e siècle traditionnaliste et tourné
tourner vers un passé qui, pour les gens qui se référaient plutôt à la même idéologie que lui, est toujours porté positivement. Cette idée de la grande famille bourgeoise, de la famille bourgeoise du 19e siècle, qui justement n'est pas grande au sens qu'elle est strictement nucléaire.
Non, mais ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est qu'il trouvait que la famille accordait de plus en plus de prix à l'enfant à partir du moment où nous savons que la famille limite les naissances. Et cela était tout à fait contradictoire à ce qu'on soutenait dans les milieux de droite traditionnellement. C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'à partir du moment où on pratiquait la contraception, c'est qu'on n'avait plus, on n'aimait plus les enfants, c'était par égoïsme, etc. Et Ariès disait à peu près le contraire. Il disait qu'on était de moins en moins égoïste dans son rapport avec l'enfant, on était de plus en plus attaché à l'enfant, et que c'est peut-être d'ailleurs pourquoi, il ne l'a jamais dit très clairement, mais enfin, c'est peut-être pourquoi on en faisait moins pour pouvoir protéger davantage ceux que l'on faisait.
Oui, mais pour lui, il n'y avait pas valorisation de ce type d'existence familiale.
Et là, il était pas clair. Il ne disait pas tellement son point de vue. Enfin, il opposait en somme une famille qui était fondée sur d'autres valeurs, sur les valeurs de patrimoine, etc., à une famille qui est basée sur l'affectivité, qui est la famille moderne. Et il laisse le lecteur choisir celle qu'il préfère, me semble-t-il.
D'où Jean Hébrard l'ambiguïté dans la réception de ce livre aussi bien en France qu'aux États-Unis, parce qu'il faut dire que dès 1962, le livre avait été traduit et ça a été le début d'un grand intérêt du public américain pour les livres de Philippe Ariès, puisque par exemple le livre sur la mort a été à la fois en même temps commandé par un éditeur américain et un éditeur français. Alors dans cette ambiguïté qui était laissée ouverte, que vient de rappeler Jean-Louis Flandrin, plusieurs lectures se sont inscrites.
Oui, et puis les travailleurs de l'enfance, que ce soit des enseignants, des éducateurs, des puéricultrices, etc., ont été très, très séduits par cet ouvrage. Plus tardivement en France qu'aux États-Unis d'ailleurs. En France, il n'a vraiment débordé certainement les milieux historiens que dans sa dernière réédition.
En 1973, qui était doublé d'ailleurs par une édition de poche. Le Seuil avait publié en même temps.
Qui est l'édition qui a été lue peut-être dans ces milieux-là, édition abrégée d'ailleurs. Une bonne partie des travaux concernant l'histoire de l'école était absente de cette édition. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les travailleurs de l'enfance ont trouvé là quelque chose qui venait répondre à une espèce de lassitude des travaux antérieurs, un petit peu comme si presque un siècle de psychologie de l'enfant qui avait été jusqu'à présent au centre de la préparation, de la formation des travailleurs de l'enfance venait là se briser sur une relativisation de la notion d'enfance. Et c'est peut-être d'abord ce qui a été ressenti dans la lecture d'Ariès comme réellement nouveau. Il n'y a pas un enfant dont le psychologue aurait la tâche de dire ce qu'il est, mais l'enfance disparaît à la limite. Et c'est peut-être cette première lecture qui en a été faite. Ce qu'on aimé dans Ariès, c'était lire que l'école venait en quelque sorte enserrer l'enfant dans des modèles trop stricts, dont nous souffrions après 68 de façon très, très, très dure. Et par contre, il y avait dans cette évocation, d'ailleurs curieusement, Ariès lui-même penchait pour la famille du 19e siècle, je pense. Il y avait chez lui, en tout cas il nous l'a dit une fois, on était allé le trouver chez lui avec un certain nombre de formateurs, d'enseignants, pour l'interviewer sur le travail des enfants. Et il nous avait dit que lui, c'était bien la famille du 19e siècle qui l'intéressait. C'était celle-là, cette affectivation du rapport à l'enfance, c'était plutôt la sienne. Et nous, lorsqu'on lui répondait « mais c'est horrible, c'est affreux, regardez au contraire ces modèles éducatifs médiévaux, de la Renaissance, que c'est bien, etc. », il était finalement tout à fait étonné.
Je crois que c'est l'ambiguïté que soulignait Jean-Louis, parce que à la fois il avait cet attachement dans la mesure où cette famille du 19e siècle c'était la sienne au sens de sa propre existence, et les premières pages de son récit autobiographique Un historien du dimanche sont une magnifique description de ce qu'était cette affectivité de la famille nucléaire étendue aux proches parents, mais très exclusive par rapport à d'autres formes de convivialité. C'est qu'au moment de sa jeunesse étudiante qu'il découvre ces d'autres formes d'inscription à l'intérieur de petits groupes. Et d'un autre côté, il n'a jamais récusé totalement cette lecture, disons, gauchisante, ou cette lecture anti-autoritaire de son livre. Elle l'amusait un peu. Mm-hmm. Et je voudrais citer juste un petit passage dans son autobiographie qui montre bien ce que disait Jean Hébrard. La seconde édition de 73 a trouvé un public plus large et plus varié de psychologues, médecins, sociologues, travailleurs sociaux. J'ai même été invité à des réunions de travailleurs sociaux que mes points de vue rétro ont dû désappointer. Comme en Amérique, de jeunes lecteurs ont cherché dans mes travaux des arguments pour la recherche d'un monde où la famille serait plus ouverte, les petites communautés retrouvées. On identifiait facilement la critique de la société industrielle à la critique du capitalisme et du libéralisme de droite et finalement à un gauchisme new left. Donc cette sorte d'ambiguïté, il a toujours été d'ailleurs en sympathie avec Ivan Illich. Et il a toujours maintenu la double lecture possible de son livre. Et du point de vue de l'histoire de l'éducation, Jean-Hébrard, qu'a représenté l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, donc dans ses éditions complètes, celles qui donnent toute une grande seconde partie sur les formes de scolarisation?
Mais je crois que la partie propre à l'histoire de la scolarisation a relancé certainement une discipline qui était... tout à fait ennuyeuse, au moins pour les lecteurs seconds, non pas pour les spécialistes, mais pour les lecteurs qui souhaitaient en profiter dans d'autres domaines, dans d'autres espaces. Et cette relance, je crois, continue. C'est-à-dire qu'à la suite de cet ouvrage, on a vu par exemple toute une série d'enseignants se mettre à se proposer de faire une thèse d'histoire de l'éducation dans cette perspective. Alors, cela devient quoi ? Cela devient un travail, peut-être que ce qu'on a retenu de la méthodologie très particulière d'Ariès, c'est l'idée que l'on a le droit de faire une monographie, qu'on peut essayer d'aborder tel ou tel phénomène scolaire en allant regarder des images, des gravures, des...
Et une monographie pas forcément sur la base d'un découpage classique, celui de l'établissement ou celui d'une zone géographique,
mais plutôt quelque chose de tout à fait
par matériaux. Dont
par matériaux, par matériaux. Regarder des cahiers, par exemple. Regarder des écritoires, des façons de tenir la plume.
Oui, l'attention à l'objet qui était très forte chez lui. D'ailleurs, il faut signaler qu'un autre texte de lui sur l'éducation est tout à fait intéressant. C'est la contribution qu'il avait donnée à cette encyclopédie de la Pléiade, qui a pour titre, enfin le volume a pour titre, La France et les Français. Et il avait donné une forme, une synthèse sur l'évolution des processus éducatifs entre la fin du Moyen-Âge et le XVIIIe siècle.
Mais il faut dire peut-être aussi qu'il y aurait dans les travaux récents d'histoire de l'éducation, par-delà Foucault, un espèce de retour à Ariès, c'est-à-dire un abandon des positions très antiscolaire de Foucault.
Enfin, ou de la lecture de Foucault.
De la lecture qui avait été faite de Foucault à cette époque-là, et un retour à une espèce de d'attention amusée, critique sans être méchante de ces phénomènes de scolarisation pour lesquels on cherche à la fois des valeurs positives et des valeurs négatives. Et ça aussi, peut-être, c'est une des traces du travail d'Ariès dans le travail qui se fait un peu dans les marges de l'histoire officielle aujourd'hui, mais qui est très présent dans, par exemple, le secteur de la formation des enseignants.
La voix de Philippe Ariès, en 1978, à propos de son livre « L'homme devant la mort ».
Ces changements très, très brutaux et très rapides des attitudes devant la mort doivent être mis en relation avec des changements dans la structure de la société et des changements devant l'idée que nous nous faisons du malheur ou du bonheur. C'est la même chose.
Thank you.
Il nous faudrait maintenant évoquer, compagnie de Jacques Revel, la manière dont Philippe Ariès comprenait les évolutions historiques et tentait d'en rendre compte dans les différents livres qu'il a publiés. Alors je pense que nous pouvons centrer cet examen sur le dernier livre d'Ariès, ou les deux derniers livres de Philippe Ariès, « L'homme devant la mort », qui avait été publié en 1977 au Seuil, et qui a été suivi l'année dernière des « Les images de l'homme devant la mort » qui présentait le dossier iconographique qu'il avait rassemblé pour cette recherche. Ce sujet, il faut le rappeler, l'a occupé pendant plus d'une vingtaine d'années, puisqu'il a commencé à penser, à écrire quelque chose sur les coutumes funéraires contemporaines. C'était là son premier projet dès le début des années 60, une fois achevé le livre sur l'enfant et la vie familiale, et que cette aventure ne s'est terminée que l'an dernier, lorsqu'il a publié le dernier des travaux concernant ce grand thème. Alors, à travers les livres qui sont issus de ces 20 années, en compagnie de ce sujet, les attitudes devant la mort, on peut peut-être essayer de prendre mesure de ce qu'était l'histoire pour Philippe Ariès et de la façon dont il la faisait. Je crois que c'est d'ailleurs la seule voie, Jacques Revel, parce qu'il n'y a pas de texte théorique d'Ariès qui nous dirait un discours sur l'histoire, comme d'autres historiens l'ont tenté. Ici, il nous faut référer directement à ce qui a été la production d'histoire d'Ariès.
Oui, c'est même un phénomène assez remarquable que Philippe Ariès, qui avait des idées très arrêtées sur les sociétés et sur leur devenir, des idées assez pessimistes, chacun le sait, était à ce point réticent dans son travail d'historien à expliciter sa manière de faire. Cet homme qui a beaucoup inventé et qui est sorti d'autant plus facilement des sentiers battus que rien ne le retenait, aucun impératif universitaire, aucun compagnonnage de métier, s'est toujours refusé, sauf quelques rares textes qui lui ont presque été soutirés à l'occasion d'une discussion mise en forme, comme lors du colloque de Saint-Maximin, il y a 3 ans, à dire comment et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Il faut donc essayer de retrouver les traces de son travail dans ses œuvres, et c'est peut-être d'ailleurs l'un des secrets de son efficacité et de sa productivité.
Alors, lorsque l'on est confronté à ce grand travail sur la mort, la première chose qui frappe, c'est le choix de la durée qu'il a fait pour cette recherche, et d'autre part, l'espace dans lequel il l'a circonscrite. La durée 5e, 20e siècle, 15 siècles d'histoire, et l'espace est un vaste monde occidental, jamais d'ailleurs très bien clairement défini quant à ses limites, mais disons, c'est l'Europe occidentale avec son prolongement nord-américain. Il y avait là, je crois, de quoi surprendre à la fois le public des lecteurs d'histoire et aussi les historiens de la corporation, parce que cette dimension géographique ou chronologique n'est pas ordinaire en ces dernières années.
Oui, je crois que si l'on veut comprendre ces choix qui nous étonnent, on a beaucoup parlé dans la recherche historique, en France en particulier, de longue durée, mais peu de gens l'ont pratiqué, et personne probablement avec autant d'audace. Si l'on veut comprendre ces choix de Philippe Ariès, il faut les référer à des raisons qui peuvent être assez différentes et hétérogènes. La première, c'est bien sûr qu'il faisait des exercices libres. Il ne faisait pas de thèse, il ne se souciait pas des comptes rendus qu'on lui consacrait. Il écrivait ce qu'il avait envie de faire. Et d'une certaine manière, il y trouvait une audace que peu d'historiens professionnels peuvent comprendre. La seconde chose, c'est que, on le sait bien, Philippe Ariès est quelqu'un qui faisait de l'histoire dans son temps libre. Et moi, je me souviens de l'avoir vu au début des années 70, en Italie, entre 2 réunions à la FAO, courir avec son carnet de notes à la main pour lire une inscription funéraire romaine ou voir une peinture dans une église du XVIIe siècle. Et toute la documentation de ces livres a été ainsi faite, bricolée, sans mauvaise part, dans les interstices de son temps de travail. Or, c'était un homme qui était curieux, qui voyageait beaucoup, et l'ère à la fois chronologique et géographique de son enquête a été au fond un peu définie à l'occasion de ses vagabondages, 6 mois aux États-Unis, et il se mettait à la tête d'un dossier sur les modes d'inhumation en Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle, et puis des séjours fréquents en Italie, dont il a ramené cette grosse documentation baroque, et puis il découvrait un cimetière près de Verdun, dont il exploitait la leçon, et il s'est ainsi constitué un patchwork qui n'est pas dans nos habitudes universitaires, mais qui est pour une bonne part dans la saveur même de son œuvre. Alors là, ce sont des données de fait. Et puis il y avait, je dirais, une représentation ou une compréhension de la durée historique qui, elle, était peut-être pas construite de manière explicite, mais solidement ancrée chez ce traditionnaliste. Philippe Ariès n'était pas quelqu'un pour qui l'histoire avait un sens, en tout cas pas un sens inéluctable. Et au fond, ce qu'il cherchait dans l'histoire, c'était l'épaisseur d'un passé et l'épreuve d'une mort collective.
Oui, je crois qu'il aimait, il l'a expliqué quelquefois, remonter finalement dans l'histoire, et puis en étant comme entraîné. Parce que le souci qui est à l'origine de tous ces livres est toujours un souci de comprendre le pourquoi, enfin, ou plutôt le pourquoi d'une part, et d'autre part l'origine des attitudes contemporaines. Les pratiques contraceptives et la dénatalité dans son livre sur l'histoire des populations françaises, un sentiment de la famille caractéristique des sociétés du milieu du XXe siècle dans son livre sur l'enfant et la vie familiale. Il était comme amené naturellement à remonter le temps pour trouver le point de départ de ses attitudes contemporaines et ensuite de continuer sa quête à la fois par le hasard de ses rencontres avec des témoignages historiques dont vous avez parlé, mais aussi parce que par la différence avec d'autres systèmes de vivre la famille, d'inhumer ou de pleurer les morts, il pouvait faire surgir l'originalité des attitudes contemporaines. Dans cette rencontre de Saint-Maximin, où tous ceux qui ont participé ont gardé un souvenir très ému de sa présence, il s'est expliqué là-dessus. Je voudrais juste citer une phrase. « Si je fais de l'histoire, disait-il, ce n'est pas du tout parce qu'au premier chef, je m'intéresse à l'histoire de la mort, de l'enfant ou de la famille. » Un peu une distance prise ici par rapport à des intérêts corporatifs où l'on choisit des sujets à l'intérieur d'un champ professionnel. C'est pour essayer de me comprendre moi-même dans la situation d'aujourd'hui. Autrement dit, mon travail vise à atteindre une explication de la modernité. J'ai le sentiment qui reste très fort que nous traversons actuellement une période de transformation radicale. Pour saisir cela, je suis obligé de remonter en arrière et de revenir ensuite à ce qui se passe aujourd'hui pour alors me comprendre dans le temps d'aujourd'hui. Donc un ton même très personnel d'un rapport à l'histoire faite par rapport à soi-même. Alors ces durées très très longues dont nous venons d'essayer de comprendre les raisons, comment les maîtrisait-il? C'est-à-dire comment est-ce qu'il les découpait pour les rendre compréhensibles à ses lecteurs?
Philippe Ariès était une sorte de sociologue intuitif et qui en fait a construit des durées, des chronologies en fonction de ce qu'il essayait de comprendre au présent. Dans le présent, il trouvait à la fois des attitudes dominantes, mettons des attitudes devant la mort, et des attitudes qu'on peut appeler marginales ou secondaires. Il en cherchait, rétrospectivement, l'ancrage dans le passé. Et d'une certaine manière, toute son enquête historique et le découpage chronologique qu'il a sous-tend sont construits comme une typologie. On cherche dans le passé des sortes de témoins, de repères, d'attitudes qui, avec une importance variable, sont encore présentes dans les formes de vie collective aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre de Philippe Ariès qu'il propose d'immenses scansions chronologiques, des cycles, des fluctuations de longue durée, mais plutôt qu'il identifie dans ces 15 siècles d'histoire de la mort des modes de gestion de la vie et de la mort, dont on peut retrouver, encore une fois, inégalement présentes des traces aujourd'hui, et qui ont été des figures dans le passé collectif des hommes.
Oui, et c'est le passage de l'une à l'autre, ou de la dominante de l'une de ces figures à une autre, étant toujours pensé par lui sur un temps très long, et avec des séries de chevauchements.
Oui, Ariès n'a jamais pensé que quoi que ce soit, c'était même l'un de ses credos, du disparaître de la vie des sociétés. Et disons qu'à la succession d'une série d'attitudes devant la mort, il aurait certainement préféré l'image d'une sorte de chevauchement, de tuiles superposées les unes aux autres, la plus récente couvrant partiellement les plus anciennes, mais ne les couvrant pas suffisamment pour qu'on n'en trouve pas encore la trace à la surface de nos sociétés.
Dans votre question, n'est-ce pas, vous me ramenez à une démarche qui a toujours été la mienne, et dans cette étude particulièrement, c'est je suis toujours parti d'une observation contemporaine. Je suis parti de l'observation des grands phénomènes collectifs annuels du 1er novembre, de la Toussaint, n'est-ce pas? C'est en France et en Italie, enfin dans l'Europe continentale. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un phénomène très ancien qui remonte aux antestéries, qui a toujours persisté à travers les temps, ou est-ce quelque chose de plus récent? Et c'est ça qui a été le point de départ de ma recherche. Alors, pour répondre à ce type de question, on est obligé de faire le tour des documents que l'on possède, et d'aller derrière eux, de chercher ce qu'il y a dans ces documents que l'auteur des documents n'avait pas l'intention de dire et qu'il est amené à dire malgré lui, parce que c'est le commun dénominateur entre lui et ses lecteurs et son temps. C'est quelquefois facile pour un certain nombre de textes comme les documents iconographiques. C'est beaucoup plus difficile pour les documents littéraires et pour les documents théologiques et religieux qui sont infiniment plus, comment dirais-je, personnalisés, qui sont infiniment plus orientés vers un but. Et il fallait, comment dirais-je, déchristianiser ou décatholiciser ces textes, ce qui n'était pas toujours une petite affaire, et je ne suis pas sûr de ne pas m'être trompé bien souvent.
Si l'on suit cette voie, on s'aperçoit d'une seconde grande originalité de la manière de penser d'Ariès. C'est celle qu'il portait à essayer de reconnaître chaque fois, dans une longue période de temps, où un modèle était dominant, ce qu'il appelait le sentiment commun, le sentiment général, ou encore, il a employé une autre fois le mot d'archétype, ou l'expression d'archétype de civilisation. C'est-à-dire, pour lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est partagé par une société, et ce qui est vécu, pensé, agi, d'une même façon par l'ensemble des hommes et des femmes d'une société. Il y a là aussi une originalité par rapport à ce que nous avions tous appris de l'histoire sociale française.
Oui, d'une certaine manière, Ariès est resté proche, je dirais, à la fois d'une certaine sociologie, mettons de la sociologie weberienne, du début du siècle, qui faisait partie de sa culture, et d'autre part de la première formulation d'une histoire des mentalités telle que, par exemple, Lucien Febvre l'a proposée dans les années 1920-1930, celle où l'on était moins attentif à des distributions sociales, des attitudes culturelles ou des attitudes mentales, qu'à ce qui, à une époque donnée, unifie les hommes autour d'un certain nombre de pratiques. Et je crois que le terme d'archétype que vous avez utilisé dit très exactement ce que cherchait Ariès. Je crois que ce qu'il voulait identifier étaient les formes les plus dominantes de comportement, non pas pour leur représentativité sociale, mais d'une certaine manière parce qu'elles auraient informé la plus grande part des pratiques individuelles.
Oui, alors on a souvent d'ailleurs mal compris ce qu'il voulait faire. D'une part, certains disant Ariès ne s'intéresse qu'aux couches supérieures de la société, c'est l'homme de l'histoire des élites, ou d'autres disant mais Ariès gomme complètement l'ensemble des écarts, des différences. Quelle naïveté de penser que tous les hommes d'un temps croient et font la même chose à la même époque. Je crois que ces deux reproches ne sont pas tout à fait vrais. C'est le fait pour lui de penser les écarts, les différences qu'il est prêt à reconnaître, et tout son livre sur la mort marque des écarts entre clercs et laïcs, entre dominants et dominés, entre les nobles et les paysans, mais de les penser comme étant pris à l'intérieur d'un processus qui façonne
progressivement un système commun de conduite et de représentation, un peu comme Lucien Febvre pensait le fonctionnement de l'outillage mental. Tout le monde ne partage pas totalement, ne maîtrise pas totalement un outillage mental, mais les limites qui sont fixées par cet outillage mental pèsent sur l'ensemble des hommes d'un temps.
Oui, et je crois que chez Ariès, cela joue à deux niveaux. D'une part, cela fixait les conditions du pensable ou du praticable à un moment donné, et en cela, il est tout à fait voisin de Lucien Febvre. Et puis d'autre part, il y a chez lui une représentation de la société qu'on peut lier, si on veut, à sa formation maurrassienne et qui est celle d'un tout organique dans lequel, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, la solidarité des partis l'emporte sur leurs différences. Ariès était très prêt à reconnaître qu'il y ait des distinctions sociales ou socioculturelles, mais il était encore plus convaincu que ce qui liait les hommes dans les sociétés traditionnelles l'emportait sur ce qui les divisait.
Alors de là, il y a toute une série de conséquences dans sa pratique même d'historien et je crois dans la lecture qu'il fait des textes et des œuvres, parce que c'est un homme qui travaille beaucoup avec des grands témoignages de ce que l'on serait amené à caractériser comme la culture dans sa forme la plus cultivée, les grands peintres, la statuaire, des textes qu'il emprunte à toutes les littératures, mais en aucune manière il n'en donne des lectures qui sont des lectures des historiens de l'art, des historiens de la littérature. Ce qui l'intéresse dans ces textes ou dans ces témoignages artistiques, c'est autre chose.
Oui, et je crois que nous avons peut-être nous-mêmes parfois cherché de faux procès à Ariès. Ariès était, c'est vrai, on l'a parfois dit pour le lui reprocher, quelqu'un qui ne critiquait pas ses sources et qui ne se posait jamais le problème de leur représentativité en termes sociaux, c'est-à-dire de combien de personnes ce document rend-il compte de l'attitude ?
Ou de leur conduction de production, ou de leur enracinement ?
Non, il prenait les documents comme ils étaient. En revanche, il en faisait une lecture qui n'était jamais inscrite dans le sens de la trame. Et c'est probablement l'originalité la plus grande d'Ariès, son inventivité la plus impressionnante, que cette manière de reprendre des documents souvent très connus et d'y chercher ce pourquoi ils n'étaient pas faits et qui les rendait véritablement significatifs. Donc je crois qu'on se trompe en lui reprochant de ne pas avoir vérifié les conditions de représentativité sociologique de ces documents, car ce qu'il y cherchait, c'est d'une certaine manière une représentativité mentale, indépendante des conditions sociologiques de leur production.
Oui, je vais le citer encore une fois. Pour lui, ce qu'il définissait comme son travail, confronté aux textes ou aux œuvres artistiques, c'était déchiffrer, au-delà de la volonté des écrivains ou des artistes, l'expression inconsciente d'une sensibilité collective. C'est une manière de dire qui est assez proche de ce que pouvait penser Febvre ou de ce que d'autres historiens des mentalités ensuite ont essayé de faire avec les textes. Simplement, lui l'appliquait aux plus grands textes ou aux plus grands artistes, et non pas dans une recherche du document significatif socialement.
D'où ce qu'il a autorisé, encore une fois, en liaison très étroite avec les conditions mêmes de son travail quotidien, a utilisé des sources extraordinairement hétéroclites. Ariès n'est pas quelqu'un qui se souciait de n'avoir pas vu tel type de document, ou d'en avoir vu en nombre suffisant, ou d'en rajouter qui n'avait pas lieu d'être. Il prenait son bien où il le trouvait, et dans cette espèce de butinage un peu sauvage, il y a une bonne part de l'originalité de son œuvre.
Et comment est-ce qu'on peut apprécier cette manière de faire, c'est-à-dire cette distance prise par rapport à ce qui était l'habitude de l'histoire socio-culturelle française et qu'il est resté essayer de mettre en rapport des différenciations culturelles avec des hiérarchies sociales. Cette manière de faire qui est tout à l'inverse, est-ce qu'elle peut nous paraître... À certains, elle a paru très archaïsante.
Elle a des aspects qui sont archaïsants, il ne faut pas le cacher. Ariès est quelqu'un, au fond, que le grain fin de la différenciation sociale n'intéressait pas, et qui pensait la société de manière globale, holistique. On peut donc penser que, dans toute son œuvre, depuis le livre sur les attitudes devant la vie, manque, au fond, le feuilletage social de ces attitudes. En revanche, à mon sens, ce dont il a essayé de rendre compte, là encore de manière tout à fait intuitive, c'est des modèles qui dominent les représentations d'une société. Cela dit, le succès de cet exercice dans l'œuvre d'Ariès reposait, comme c'est souvent le cas, pour une bonne part, sur une capacité personnelle et une intuition exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là la voie d'expérience reproductible telle qu'elle.
Avec Michel Vinat, qui avait recueilli les confidences de Philippe Ariès, qui ont donné la matière de ce très beau livre qui a pour titre « Un historien du dimanche » qu'avaient publié les éditions du Seuil, je voudrais évoquer maintenant un autre aspect de la personnalité de Philippe Ariès, c'est-à-dire son rapport avec la politique. Parce que lorsqu'on lit ses confidences autobiographiques, on s'aperçoit tout de suite que dans son enfance, sa jeunesse, la politique compte beaucoup. Il dit par exemple: la politique était une composante de notre vie familiale. Les enfants et les adolescents baignaient dans cette atmosphère depuis leur plus jeune âge. Les discussions pouvaient atteindre un incroyable degré de fanatisme. Alors tout de suite, Michel Vinat, quelle politique si forte dans cette enfance de Philippe Ariès?
Il est certain que Philippe Ariès a baigné dans une famille de droite et que jusqu'à la fin de sa vie, il se disait un réactionnaire. Il adorait ce mot, du reste. Il se disait, non pas de droite, mais réactionnaire. Il se disait aussi anarchiste de droite, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Disons que Philippe Ariès a été formé intellectuellement, dans une très large mesure, par l'Action française. Et que ses amitiés les plus importantes sont restées celles-là. Mais à l'Action française, il y avait, pour simplifier les choses, au moins deux écoles, deux tendances. Une tendance, appelons-la étatiste, celle que personnifiait aux yeux d'Ariès un historien comme Bainville. Et puis il y avait la tendance société civile. Et lui, il faisait partie de l'AF, tendance société civile, contre l'AF, tendance État. Et par conséquent, Ariès est resté jusqu'au bout très, très attentif à tout ce qui pouvait limiter la surpuissance, la prééminence de l'État. En quoi il n'était pas un Action française tel que nous nous le présentons en général?
Oui, alors ce qui est frappant aussi dans cette politique de l'enfance et de l'adolescence, c'est non seulement la première contradiction, qui vient, vous venez de souligner, mais une de seconde, qui est une fidélité à des valeurs traditionnelles très fortes, aussi bien religieuses que morales, et puis d'autre côté, une pénétration de la modernité. Ce n'est pas un milieu, ce milieu des Ariès, fermé à ce qui serait la civilisation moderne.
C'est vrai, il y a sans arrêt chez lui cette volonté d'articuler la tradition, parce qu'il y tient, il ne veut pas qu'elle sombre, et quelle que soit la tradition, pas seulement la tradition familiale ou la tradition régionale ou la tradition française, mais toutes les traditions de toutes les civilisations, de toutes les communautés. Il y tient car il croit que c'est par la tradition que la sociabilité, la société peut se continuer. Mais en même temps, il est attentif à tout ce qui change, tout ce qui bouge, et même qui est parfois imperceptible aux autres observateurs. Et lui, il veut regarder ce qui peut bouger même d'un epsilon et qui fait la différence entre aujourd'hui et hier et avant-hier. Donc il regarde tout ce qui change. On ne peut pas dire qu'il aime tout ce qui change sous ses yeux précisément. Il en souffre parfois. Il préfère indiscutablement la société passée, ce temps perdu dont il rêve parfois, mais en même temps, il ne veut pas être enfermé dans ce rêve nostalgique.
Oui, son père était ingénieur. Il montre dans ce récit autobiographique qu'il y a une forme de culture scientifique et technique qui pénètre et qui se mêle avec toutes les difficultés qu'on vient de dire, avec les attachements traditionnels.
Oui, tout à fait. Et, il est, et quand je lui disais, mais enfin, toute votre famille était fermée au progrès, à la science. Mais pas du tout, disait-il, pas du tout, parce qu'on pouvait parfaitement être réactionnaire dans les idées et être attentif au progrès scientifique en particulier, et ne pas le négliger. D'ailleurs, lui-même travaillait dans un bureau de recherche et d'études qui utilisait l'informatique, ce qui est très curieux, puisque dans ses œuvres d'historien, précisément, il n'en a jamais fait usage. Et ce qui est étonnant aussi de la part d'un homme que l'on voit très enraciné dans un milieu traditionnel.
Mais revenons à sa confidence. Les discussions pouvaient atteindre un incroyable degré de fanatisme, dit-il, en rappelant toute cette atmosphère familiale de son enfance et de sa première adolescence. Alors sur quoi ce fanatisme? Qu'est-ce qui déchirait un milieu comme celui où était inscrit la famille Ariès?
Ben, je pense que c'était une famille donc très très bourgeoise, catholique, qui n'a jamais véritablement accepté la République, disons-le, quoique ce fût une famille assez grande, avec des oncles, des cousins, et que justement, en raison de l'importance numérique de cette famille, eh ben, il y avait des gens qui étaient plutôt pour celui-ci, plutôt pour celui-là. Mais alors, je pense que les plus grandes passions se livraient à l'intérieur d'un cadre précis qui était le milieu catholique. Et dans ce milieu catholique, eh bien, il y en avait qui tenaient pour l'Action française précisément, d'autres qui tenaient pour la démocratie chrétienne. Et ces passions-là, elles sont aussi vives, elles font autant de blessures que les passions, par exemple, dans le milieu d'extrême-gauche, entre trotskistes et communistes, parce que ce sont les gens qui sont fort proches les uns des autres qui, on le sait bien, arrivent à se blesser, à se heurter beaucoup plus durement que les gens qui appartiennent à des camps opposés.
Alors avec la guerre et la défaite, Ariès le dit lui-même, il entre un peu dans un mouvement de dépolitisation. Et ce qui devient dominant dans sa vie, c'est d'un côté son métier, auquel il se donne avec passion, et c'est d'un autre côté son travail historique, jalonné par tous les livres que nous connaissons. Pourtant, il y a des expressions que l'on pourrait dire politiques, mais dans un sens que nous allons préciser, d'Ariès, à travers des journaux, portés par des petites communautés. D'ailleurs, on retrouve ce lien amical et de connivence qui, pour lui, était le lien social fondamental. Deux expériences, l'une tout de suite après la guerre, dans un journal qui s'appelait Parole française, et l'autre, au temps chaud de la guerre d'Algérie, dans un journal qui s'appelait La Nation française. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux entrées en journalisme de Ariès, ce qui ne convient pas tout à fait à son tempérament, dans des journaux très engagés, alors qu'il est plutôt déjà ce sceptique dont vous parliez. Alors, pourquoi cet engagement? Et puis, qu'est-ce qu'il fait dans ces journaux?
Eh bien, c'est toujours par le même biais qu'il est poussé à faire les choses quand ces choses ne sont pas exactement ce qu'il aime d'habitude, c'est-à-dire par l'amitié. C'est par ce réseau de camaraderie, d'Action française, qu'il va être amené à donner sa contribution, notamment, alors je resterai de quelques instants sur la Nation française, qui me paraît l'expérience la plus intéressante. C'est par amitié pour Boutan que Ariès avait accepté de donner des articles. Alors ces articles, ce sont des articles, non pas pour la plupart, des articles de journalistes. Ce ne sont ni des reportages, ni des analyses politiques. Ce sont des contributions d'hommes cultivés, d'historiens, qui parlent de tout, mais avec du recul, qui fait des analyses aussi bien sur le catholicisme contemporain que sur tel ou tel aspect de la société française, jusqu'au moment où arrive la guerre d'Algérie, et tout particulièrement la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire l'épisode de l'OAS, et Ariès va cette fois être un véritable écrivain engagé, un journaliste engagé, puisqu'il va signer presque toutes les semaines des articles en faveur de ce qu'il appelle les soldats perdus, les pieds noirs, les vaincus de 1962.
Alors, vous avez, je crois, relu récemment un certain nombre des articles, comme il dit, d'observation et réflexion qu'il donnait dans La Nation française, et une modernité d'analyse est assez surprenante pour ces articles qui sont des années 60.
Même pas, des années 50.
Même pas, 50 d'abord, puis jusqu'à la dissolution du journal qui éclate sur des questions proprement politiques, qui opposent ceux qui fonderont Esprit Public à La Nation française. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Ariès, puisque l'amitié ne joue plus et qu'il voit, un peu comme nous évoquions tout à l'heure dans la même famille, le sillon s'opposer à l'Action française ici, les différentes tendances nées de La Nation française se déchirent très violemment, et à partir de là, il en tire une très grande douleur et il se retirera de l'entreprise. Alors, dans ces articles plus anciens, il y a une analyse de la société contemporaine qui vous a paru tout à fait pertinente et intéressante.
Tout à fait remarquable, parce que cet homme qui n'a au fond que... qui a une certaine allergie, oui, vraiment, à la politique. Il lui arrive de faire des analyses de politique en profondeur qui nous en apprennent beaucoup plus que les simples résultats électoraux ou les discours politiques habituels. Je prends un exemple. En 1956, donc le 2 janvier, on a les dernières élections de la 4e République. Et l'on constate que le Parti communiste obtient encore plus de 25% des suffrages. Et c'est étonnant parce que il y a un immobilisme du suffrage en faveur du Parti communiste qui ne s'explique par rien, apparemment. Les variations politiques, notamment la situation internationale, semblent n'avoir aucune prise sur cet électorat. Et Ariès fait alors un article que je trouve éblouissant, qui est antérieure donc aux analyses notamment d'Annie Kriegel. Il fait une analyse éblouissante sur la banlieue de Paris, et il montre que le vote communiste dans cette banlieue de Paris, qui est véritablement le cœur, le foyer sociologique du communisme, puisque là nous n'avons pas un électorat qui est à 40 ou 50%, mais qui dépasse largement 50% et qui parfois même dépasse 90% dans certaines communes. Eh bien, l'analyse qu'il fait de cet électorat, c'est celle d'un historien qui prend du recul et qui nous dit c'est l'œuvre d'une tradition. Autrement dit, ce n'est pas l'événement politique qui motive le comportement électoral de la banlieue parisienne communiste, c'est tout simplement un sentiment d'appartenance, un geste d'identification à une communauté qui est celle de ces ouvriers qui suivent une tradition. Et c'est bien pourquoi les événements n'ont pas prise sur eux. Cette tradition, elle est née dans les années 20, au moment où la banlieue s'est développée, et elle s'est développée avec tous ces gens qui ont été arrachés à la campagne et qui se sont trouvés là complètement démunis et qui ont trouvé comme solution à tous leurs problèmes une fraternité communiste à laquelle ils sont restés fidèles. Et alors, je trouve cette analyse d'autant plus remarquable qu'on peut s'expliquer aujourd'hui, 30 ans plus tard par conséquent, le déclin du Parti communiste, précisément en suivant cette idée que ce qui faisait la force du communisme, ce n'était pas une politique, une idéologie, mais bel et bien un ciment social, une communauté. Et que cette communauté, cette contre-société, comme on a fini par l'appeler, ou cette contre-église, cette contre-culture, aujourd'hui justement, se trouve complètement menacée et commence à se décomposer sous l'effet de ce qu'on appelle la société de consommation.
Je crois d'ailleurs que cet article va bientôt être disponible à nouveau et qu'il va être republié dans une revue.
Oui, effectivement, je voudrais le republier dans la revue 20e siècle, dont Jean-Pierre Rioux est le rédacteur en chef.
Philippe Ariès, L'Histoire en Liberté, par Roger Chartier, avec Raoul Girardet, Jean-Louis Flandrin, Arlette Favre, Jean Hébrard, Jacques Revel et Michel Vinocq. Bonsoir.
C'était Philippe Ariès, L'Histoire en Liberté, Une émission de Roger Chartier, réalisée par Bruno Sourcy, et diffusée pour la première fois dans Les Nuits Magnétiques le 11 juin 1984.